Bien, bonjour, chers fidèles auditeurs de nos podcasts GPBL Pensée Projet. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une sommité dans l'intelligence artificielle nous arrive de l'Europe. Et de sorte que cette sommité-là, c'est Christophe Legrindy, président de la firme Acadis France et aussi grand ami. Il a eu la gentillesse de venir nous entretenir sur les tendances et c'est quoi exactement l'intelligence artificielle. Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à toi, Benoît, surtout. Mais si déjà on parle de sommité, alors autant parler de la plus grande sommité que je connaisse d'Amérique du Nord en management de projet et management d'investissement et de portefeuille de projet. C'est toi, cher Benoît, et j'ai eu l'occasion déjà de te faire intervenir en France et je reconnais que tu m'as effacé et tu as effacé tous les autres conférenciers. Donc c'est un vrai honneur d'être aujourd'hui devant GPBL.
Et tu es très gentil, là. Tu me fais rougir, cher Christophe. Pour démarrer, Christophe, commençons avec les bases. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la petite histoire de l'intelligence artificielle et nous expliquer les grandes avancées en Europe, parce qu'on sent que l'Europe est beaucoup plus avancée que nous au Québec par rapport à ça. Donc, j'aimerais ça que tu dresses la table pour, dans un contexte pour que tout le monde puisse bien comprendre le phénomène.
Alors, rapidement, déjà, le terme intelligence artificielle, il a été popularisé en 1956. Hein, c'est la fameuse conférence de Dartmouth. Et là, on avait deux grands courants, hein, les symboliques, dont je faisais partie d'ailleurs. Alors eux, c'est des gens très arrogants, très prétentieux, qui pensaient pouvoir modéliser le cerveau humain et le fonctionnement du raisonnement tel qu'on le connaît, très logique. Et à côté de ça, on avait les connexionnistes. Alors eux, les connexionnistes, beaucoup plus modestes, ce sont des gens qui tiennent sur une image, essayaient, parce qu'ils reconnaissaient à peu près un rond, deux triangles, de voir un chat. Alors, évidemment, les connexionnistes, on les regardait de haut, nous, symboliques. Et aujourd'hui, on peut le dire, hein, les symboliques ont amené des choses dont vous avez sans doute entendu parler, ce qu'on appelle les systèmes experts, hein, les moteurs de règles. C'est sympa, ça permet pour un expert donné de modéliser un peu son raisonnement, mais dès qu'on est dans des zones un peu d'ombre, grise, c'est là où les machines, quelque part, s'arrêtent. Et les connexionnistes, eh bien, avec toute leur modestie, aujourd'hui, ont développé des outils absolument impressionnants comme le machine learning et le deep learning. Et on verra que le deep learning est à l'origine, justement, de l'IA générative. Et aujourd'hui, c'est bel et bien eux qui ont gagné, hein, dans cette fameuse bataille symbolique connexionniste. J'ai même un collègue symbolique comme moi qui disait, quand il a vu ChatGPT arriver le 30 novembre 2022, il a dit « ils nous ont humiliés ». Et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que autant les symboliques avaient cette prétention, autant les connexionnistes étaient modestes, mais quand on voit aujourd'hui l'IA générative, ce qu'elle est capable de faire, et la première performance, donc pour expliquer en quoi c'est véritablement aujourd'hui un changement fondamental pour nos sociétés, c'est la maîtrise du langage. Alors, juste en 30 secondes, pourquoi est-ce que c'était un défi aussi important pour les symboliques et les connexionnistes? C'est que dans un langage, ça se modélise en trois concepts, on va dire. Unité lexicale, unité syntaxique, ça, un ordinateur maîtrise bien. Le problème, c'est le sémantique. Pourquoi? Parce que dans la langue française, d'ailleurs, un petit clin d'œil que vous, Québécois, maîtrisez bien mieux que nous. Mais ça, celle-là, elle est facile. Vous êtes de vrais puristes et ça me fait toujours plaisir de vous entendre parce que c'est beau en plus. Ben, le sémantique, si on prend un terme français dans le dictionnaire, il a entre 4 à 20 acceptions différentes. Donc pour une machine, surtout avec les approches symboliques, elle est perdue tout de suite parce que si elle ne connaît pas le contexte, je vais prendre un exemple, la maison est isolée. Est-ce que justement elle est isolée parce qu'elle est au fin fond de la forêt ou au contraire elle est isolée thermiquement, phoniquement? Donc c'est ça aujourd'hui que l'IAG, par les approches connexionnistes et le deep learning, a réussi pour la première fois à maîtriser. C'est ce qu'on appelle le langage humain avec les logiques NLP, Natural Language Processing, Natural Language Understanding, NLU. Et ça, on va voir que ça va tout changer. Alors derrière ça, avec les mêmes techniques, plus ou moins, de réseaux neuronaux, de deep learning, on a été capable de maîtriser une image, de comprendre ce qu'il y a sur une image, la voix et donc la vidéo. Voilà donc en quelques mots un petit peu la performance des experts de l'IA généraliste qui nous amène aujourd'hui des outils qui vont effectivement transformer notre façon de faire, aussi bien à titre privé, personnel que professionnel.
Oh, wow, vraiment intéressant, Christophe. Mais j'aurais une question complémentaire à ça. Ici, au Québec, il y a un débat sur l'encadrement de l'intelligence artificielle. T'sais, on a de la misère à cerner c'est quoi la patinoire dans laquelle ce nouveau concept-là, ce game changer-là, peut avoir de l'impact sur nos vies. Vous, en Europe, le cadre de gouvernance, est-ce qu'il est mieux régi qu'ici au Québec? Parce qu'il y a beaucoup de questionnements ici.
Effectivement, en Europe, on a une réflexion qui vient de la Commission européenne, de Thierry Breton en particulier. Il y a une loi qu'on appelle l'IA Act, qui a véritablement pour but de réglementer. Pourquoi? Parce que d'une part, on utilise énormément de données, mais dans ces données, il y a aussi des données personnelles. Et que si on ne fait rien aujourd'hui, effectivement, c'est la porte ouverte à toutes les applications et tous les nouveaux services que l'on peut imaginer. Ensuite, il y a une autre problématique qui est plus liée à la technologie utilisée, le deep learning. Et vous savez que dans le deep learning, c'est pas forcément cartésien. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi, à un moment donné, on reconnaît une machine, reconnaît un chat. On sait, par exemple, sur le phénomène GPT-3.5, pour vous donner juste une idée de la complexité de la construction même des ordinateurs qui ont permis de reconnaître un chat sur une image, c'est environ 96 couches. Donc couches, il faut voir ça comme des filtres. Et sur chaque couche, il y a entre 1 à 2 milliards de paramètres.
Oh là là.
Qui, en fonction des images qu'on leur a données, vont effectivement, statistiquement, c'est comme des neurones, vont prendre des pourcentages. C'est vraiment une approche très probabilistique. Mais on a du mal, aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer pourquoi, à un moment donné, on reconnaît là un chat et pas un chien. Donc, la difficulté, c'est la traçabilité et l'explicabilité. Et c'est là où, justement, en Europe, on souhaite mettre à plat et expliquer les algorithmes qui permettent d'arriver à une conclusion.
Wow! Intéressant. Puis écoute, hier, je donnais une conférence à l'Université du Québec à Trois-Rivières ici, puis les étudiants me demandent toujours la même question. C'est quoi l'impact de l'IA sur la gestion de projet ou le management de projet? Parce qu'ils semblent avoir des préoccupations par rapport à comment est-ce que ça va changer carrément la manière qu'on gère les projets, etc. Donc, est-ce que tu peux nous entretenir un peu sur l'impact de l'IA sur la gestion de projet?
Je pense que tu es mieux placé que moi pour y répondre, mais je vois bien qu'au travers de ma réponse, ça va t'aider peut-être à enrichir la tienne. Mais c'est une très bonne question. Alors déjà, on n'a pas forcément une réponse, je dirais, qui est basée sur une grande expérience. Pourquoi ? Parce que le phénomène vraiment de l'IA générative date de fin 2022. Si on prend un tout petit peu de recul, c'est tout juste un an et demi. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que ça va impacter l'ensemble du cycle de vie du management de projet. C'est-à-dire de la phase d'expression de besoin jusque finalement à ce qu'on peut appeler le décommissionnement de la solution. En passant ensuite par les phases de conception, de développement, de planification. Donc, l'IAG va être véritablement une aide et elle peut le faire de différentes manières, aussi bien dans le travail des équipes, parce qu'on peut enregistrer ce que les gens se disent. À partir de ces enregistrements, on peut modéliser, on peut en faire des graphiques, on peut gérer des plannings. Et c'est vraiment dans une logique multimodale, c'est-à-dire aussi bien par le texte, avec nos 10 doigts quand on écrit, que par la voix, que par les images qu'on peut amener. Je pense à un building, par exemple, où avec simple photo, on arrivera à avoir les caractéristiques, etc. Donc oui, ça va véritablement percuter le cycle de vie du management de projet, et ça, quel que soit le type de projet, qu'il soit du bâtiment, de l'ingénierie mécanique ou de recherche.
Wow, c'est très intéressant, Christophe. Mais ma compréhension, c'est que toute l'IA dépend d'une base de données assez costaud qui permet d'utiliser ces données-là pour être capable d'optimiser ces processus-là. On a un petit peu de difficulté à voir un peu comment son projet, ses bases de données vont être constituées. Qu'en penses-tu, là?
Ça, c'est vrai. Il n'y a pas d'IA sans données. Et là, tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental. Beaucoup de personnes veulent se précipiter à utiliser des outils d'IA. Ça ne sert à rien si je n'ai pas la donnée ou si la donnée n'est pas de qualité. Donc là, je pense que tu mets en exergue ce qu'il y a de plus fondamental, c'est-à-dire c'est cette fameuse donnée. Alors, par exemple, dans le bâtiment, quand aujourd'hui je veux demander à l'IA de m'aider à concevoir un bâtiment vert, par exemple, écologique, etc., là, on a la chance d'avoir énormément d'images et donc la génération sera beaucoup plus, je dirais, percutante. Mais il y a d'autres domaines où, si je n'ai pas renseigné avec des données spécifiques, eh bien, il est clair que l'IA sera bien moins intéressante.
Christophe, tu comprends que ces nouveaux concepts-là font peur à la haute direction, hein? Les VP, les présidents qui voient des nouveaux concepts-là, de sorte que c'est pas facile d'essayer de convaincre le C-suite de dire de l'importance d'embarquer dans le train, parce que train, il y a, puis le train ne ralentira pas. D'après moi, il s'en va vers un TGV. Comment tu vois, tu sais, attaquer ce monument-là,
là? Alors, là encore, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que si nos dirigeants, la C-suite, comme tu l'appelles, n'a pas compris les enjeux, eh bien, on aura beaucoup de mal à travailler, hein, projet par projet, en expliquant qu'on va se faire aider d'une intelligence artificielle ou d'une intelligence artificielle générative. Donc aujourd'hui, hein, je vais te révéler un secret, mais je passe 50% de mon temps de travail à culturer des directions générales. Qu'elles soient dans les services publics ou dans les services privés, c'est quasiment, je suis à 50-50, pour justement expliquer avec des termes simples et pédagogiques, et on peut le faire, même si on sait que derrière, il y a des technologies sous-jacentes qui sont extrêmement compliquées, extrêmement pointues. Mais il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est que l'IA, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que l'IAG, que ce que c'est qu'une approche multimodale, qu'est-ce que c'est aussi que le prompt engineering, etc. Parce qu'une fois qu'ils l'ont compris, comme ce sont des gens intelligents, eh bien, ils vont pouvoir jouer avec ces concepts, ils vont pouvoir dialoguer avec des professionnels comme toi ou des experts comme moi, qui auront pour but, justement, d'identifier ensuite les domaines à plus forte valeur ajoutée pour leur entreprise.
Parce que les entreprises implantent souvent des logiciels de gestion de projets corporatifs, les MS Project Enterprise, des Planisware ou des systèmes comme ça. Est-ce que tu vois un lien entre l'IA et les systèmes informatiques comme corporatifs en gestion de projet?
Oui, alors forcément, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité des moyennes grandes entreprises utilisent des outils de gestion de projet à minimum pour la planification, la gestion des ressources, etc. Et l'avantage, c'est comme on a énormément, grâce à ces outils, de données, parce qu'on a fait des dizaines, des centaines, voire des milliers de projets, eh bien, une intelligence artificielle a effectivement cette capacité d'analyser, c'est-à-dire d'analyser à la fois les dérives ou alors les sous-estimations, hein, ça arrive aussi, des phases qu'on a sous-évaluées. Elle peut aussi être de conseil, on peut lui poser aussi la question, tiens, sur la base de ton expérience, quels sont par exemple les risques dans cette typologie de projet que je prends? Certes, on a des méthodes, et tu connais bien, en tant qu'ex-président aussi du fameux PMI, et je me souviens être intervenu aussi à tes côtés. Évidemment, on a la chance, grâce au PMI, d'avoir des frameworks et d'avoir des outils. Mais là, l'IAG va être un peu plus précise parce qu'en fonction de la typologie de projet, va pouvoir aussi nous orienter. Donc oui, il y a un impact très fort de l'IAG sur les outils de travail qu'on utilise aujourd'hui dans la gestion de projet.
Tu sais, Christophe, un des problèmes majeurs qu'on voit dans l'ensemble de toutes les organisations, au moins québécoises, c'est la gestion de capacité. C'est très difficile pour les organisations de gérer la capacité, à savoir, on a un portefeuille de 50 projets qui va nécessiter, exemple, 3000 jours aux personnes, de sorte que... Et de planifier les capacités, puis ensuite de la suivre, c'est quand même un autre défi ça, par rapport à ça. Est-ce que tu penses que l'IA va pouvoir nous aider par rapport à la gestion des capacités?
Je pense que par l'expérience, avec effectivement tout le stock ou tout, je dirais, les projets qui ont déjà été menés, on a de fait un historique très important, quel que soit le type de projet, et que de fait, l'IA pourra nous aider à construire des ABAC par rapport aux nouveaux projets. Si ce n'est qu'il ne faut pas oublier que l'IA elle-même maintenant a un impact sur le processus. C'est-à-dire, je travaillais au début des années 2000 sur un cas d'entreprise qui fait de la gestion de projet pour construire des usines d'incinération. Eh bien, on s'est aperçu que quand on mettait les données au centre, ce qu'on appelle aujourd'hui la maquette numérique, qui est devenue après plus tard le BIM, et qu'on faisait de l'ingénierie collaborative, c'est-à-dire que le fait d'avoir les données, le partager avec tous les acteurs, fait que plutôt que de travailler en séquentiel, on pouvait travailler en parallèle. Résultat des courses, on gagnait 20 à 25% de temps en délai de construction et 15 à 20% en coût. Donc là aussi, l'IA va permettre de systématiser ce type d'approche et aura aussi un impact bénéfique, je dirais, sur la gestion de projet elle-même, voire va nous permettre d'être plus rapide et de coûter moins cher.
Les gens vont être heureux parce que c'est vraiment une problématique importante ici au Québec. L'autre élément que j'aimerais discuter avec toi, Christophe, c'est que en gestion de projet, il y a trois types de compétences qu'un gestionnaire de projet doit maîtriser. Les compétences techniques, comment faire une planification, une analyse de risque. Et le plus important aujourd'hui, c'est les compétences comportementales, parce que de plus en plus, les projets sont de plus en plus complexes, de plus en plus de parties prenantes, à la limite même l'acceptabilité sociale. Le citoyen est de plus en plus éduqué, le citoyen est de plus en plus impliqué sur les projets, ce côté-là. Comment que tu penses que le futur gestionnaire de projet devrait réagir par rapport à cette game changer-là dans l'industrie-là?
Alors, c'est bien parce qu'on est ensemble et que tu es un ami de longue date que je vais te révéler certaines choses que je pratique moi-même.
OK.
À savoir, on est capable aujourd'hui, alors, on avait déjà parlé ensemble des études de l'université britannique qui s'appelle Cranfield, qui avait justement montré que quand on débutait un projet, en particulier les projets de nature informatique ou autre qui étaient nouveaux, au début, il y avait une phase d'euphorie et très vite, on tombait dans ce qu'on va appeler la Death Valley, la vallée de la mort, où quand l'équipe se rend compte véritablement de ce qu'il faut faire, eh bien, elle devient dépressive et a le moral à ras les pâquerettes. Et là, il y a une phase assez difficile, qui est vue comme la Death Valley, où c'est là où la plupart du temps, les dérives se font, etc. Mais ce qui est très intéressant dans ces études, c'est qu'ils ont aussi, par rapport à ta question, montrer que statistiquement, donc c'est une étude vraiment académique, qu'il y a des profils qui, quand je les ai dans mon équipe, eh bien, j'ai plus de chances, hein, quand j'ai cette Dream Team, de réussir mon projet. Alors, évidemment, toi-même, tu les connais, mais je vais quand même les rappeler pour nos auditeurs. Le premier, il faut un leader. Ce n'est pas le plus intelligent, mais c'est celui qui décide, qui prend les choses en main. Si on n'a pas ce leader, évidemment, le projet ira moins bien. Deuxième, il faut ce que vous appelez chez vous des PCO, un contrôleur. Alors lui, ce n'est pas le profil qu'on aime beaucoup parce qu'il nous rappelle toujours qu'on est en retard, qu'on consomme trop de ressources, mais il est super utile parce qu'il garde le cadre. Ensuite, il faut ce qu'on appelle un pétillant. C'est un peu le professeur Nimbus, celui qui a des idées, etc., flash. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quand on est dans des situations un peu ardues, ce n'est pas forcément lui qui va trouver la réponse, mais il va orienter les autres de par sa façon de penser. Et enfin, dernier profil, il faut un marrant, un drôle. Pourquoi ? Parce qu'il va être très utile quand justement le moral est dans les chaussettes, pour justement amener l'équipe à être plus joyeuse et à faire passer les moments difficiles. Et alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que ce sont des comportements, hein, ce ne sont pas juste des rôles, ce n'est pas que des skills. En fait, c'est vraiment la nature. Et bien aujourd'hui, grâce à l'IAG, on est capable d'identifier quelque part si dans mon équipe, j'ai ces quatre profils ou je ne les ai pas. Il y a approches aussi des couleurs, tu sais, disques. Oui. Eh bien, on est capable. J'ai vu encore ce matin, c'est amusant, une société qui proposait de faire, grâce à des agents intelligents, juste sur le profil de Benoît Lalonde sur LinkedIn et sur, ça peut être, je peux rajouter d'autres informations, de savoir si tu es plutôt un bleu, un vert, un jaune ou un rouge. Wow. Alors, je l'ai fait pour toi, mais je ne vais pas te dire ta couleur.
Merci, tu es bien gentil pour nos auditeurs, au moins. Tu sais, dans la phase conception des systèmes d'information, je sais qu'Acadis a une vision très innovante et percutante par rapport à ça. Peux-tu nous dire en quelques mots en quoi l'IAG va modifier nos systèmes d'information, par rapport à qu'est-ce que vous faites chez Acadis?
Oui, alors très clairement, l'IAG est maintenant une opportunité extraordinaire et on va essayer de décrire ça en deux temps. À la fois sur ce qu'on appelle le collaborateur augmenté, d'une part, et ce qu'on appelle l'entreprise augmentée d'autre part. Pourquoi le collaborateur augmenté ? Parce que le poste de travail peut être complètement réinventé. On sait que le poste de travail Microsoft était application-centric. Aujourd'hui, dont on travaille avec des entreprises qui, quand tu te logues sur ton environnement de travail, tu vois le logo de l'entreprise, tu vois l'organisation d'entreprise, tu vois les messages de la DRH ou du directeur général. Elles sont user-centric, ce qu'on appelle, orientées sur l'utilisateur, et surtout, tu l'as dit aussi au début, data-centric, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de chercher l'information. L'information, quand je commence à écrire, elle vient à moi ou elle m'explique qu'un document là, que je suis en train d'écrire, elle existe déjà il y a 2 ans, est-ce que je ne veux pas y accéder ? Donc, on voit bien qu'il y a la possibilité, avec aussi l'intelligence artificielle générative, de booster la productivité individuelle. C'est ce qu'on appelle, nous, le collaborateur augmenté, et de repenser son outil de travail hein, qui sera justement orienté entreprise, orienté utilisateur, orienté data. Pour le SI, eh bien, il faut bien se dire qu'il a été construit verticalement et pas horizontalement. Or, une entreprise, c'est évidemment pas à toi que je vais l'apprendre, tu l'enseignes aussi, a toujours travaillé en processus. Or, aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est qu'on a des données partout. On a des données dans les RH, chez les comptables, chez les opérationnels, à la recherche. Or, on s'aperçoit que le système d'information devrait être aujourd'hui un jumeau numérique du système opérant, ce qu'on appelle un métasystème du système qui fonctionne, du système opérant. Et là, l'IAG, elle est extraordinaire parce qu'elle nous permet de reprendre toutes les applications, de les refactoriser, de séparer les données des traitements, des accès aux données aux traitements. C'est ce qu'on appelle une architecture numérique propre, entre guillemets. Et en appuyant sur un bouton, eh bien, de régénérer le système d'information qui correspond totalement à ses besoins. Ça veut donc dire que là, il y a une révolution phénoménale, que je suis sans doute le premier à annoncer aujourd'hui, mais c'est qu'on n'a plus besoin d'éditeurs. On n'a plus besoin d'éditeurs. Les entreprises ont aujourd'hui, grâce à cet outil fantastique, la possibilité de se réapproprier leur système d'information, ce qu'elles auraient d'ailleurs toujours dû faire. Et ce n'est pas juste un concept. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on analyse des entreprises qui sont en avance, je pense à Walmart, première entreprise mondiale, ça doit être 550 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Walmart a justement conçu, by design, ça a été une des rares à le faire, son système d'information de manière transversale. Une autre société qui a réinventé le textile, qui s'appelle Benetton, qui a été copiée ensuite par Zara en Europe, a aussi, by design, conçu son système d'information comme ça, ce que ne font personne. Eh bien, ces sociétés ont des niveaux de performance absolument incroyables, et c'est pour ça qu'elles sont leaders. Je rappelle que l'actionnaire principal de Zara est l'homme le plus riche aujourd'hui d'Europe, au passage. Voilà, donc, tout ça pour dire que l'IAG a cette capacité à repenser nos systèmes d'information, et c'est basé sur quoi ? Le simple fait qu'on est capable de maîtriser le langage humain avec toute sa complexité, le langage informatique, c'est super simple. Pourquoi ? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle des grammaires LL1, sans être technique, c'est un mot correspond une fonction. Donc, si je suis capable de maîtriser le langage humain, évidemment que je maîtrise le langage informatique.
Wow. Ouais, c'est quand même toute une révolution. Donc, ma question alors, ça serait comment on se prépare à une telle révolution? Parce que là, on a quand même des paradigmes, surtout à mon âge. Là. Moi, tu sais, il y a un clivage générationnel assez important. Donc, comment qu'une organisation peut se préparer et surtout envoyer des messages à nos jeunes générations, à nos futurs gradués des programmes de maîtrise? Comment qu'on se prépare à cette révolution-là?
Alors, excellente question. Et tu sais, Benoît, tu n'es pas si vieux que ça. Hein. je vais te dire pourquoi. Picasso disait, il faut des années pour devenir jeune. Il faut des années pour devenir jeune. Et je trouvais ça. Il a dit, j'ai mis toute une vie pour pouvoir dessiner comme un enfant. Donc, je crois qu'aujourd'hui, au contraire, on a besoin de gens comme toi qui ont à la fois cette expérience et ce recul pour ne pas tomber dans le piège qui s'ouvre devant nous et qui est absolument gigantesque. C'est ce fameux piège de l'utopie ou du fantasme technologique. Et malheureusement, plus de 90% des entreprises vont y tomber parce que c'est un invariant. Ça a même donné le nom d'un paradoxe, d'un prix Nobel, le fameux paradoxe de Solow, hein, qui disait, prix Nobel d'économie 1987, je rappelle que le paradoxe de Solow en 2024 est toujours d'actualité, on a investi quasiment 100 000 milliards de dollars en informatique et télécom. Je vais prendre ce domaine aussi que je connais bien. eh bien, plus de 90% des projets sont incapables, après mise en production, de montrer la valeur qu'elle a apportée à l'entreprise. Pourquoi ? Ben parce qu'on en a fait des projets technologiques et on n'en a pas fait pour des projets. Je sais que tu plaides ça depuis ta plus tendre enfance. Ben tu vois, n'arrête pas, s'il te plaît. Ils n'en ont pas fait des projets d'entreprise. Donc, au contraire, je pense qu'on va remettre l'église au centre du village. De fait, pourquoi ? Parce qu'il va falloir prendre ce phénomène qui est phénoménal, qui va toucher toutes les strates de notre société, mais il va falloir le prendre non pas comme un projet technologique, mais il va falloir le prendre comme un projet d'entreprise. Et des gens comme toi qui excellent dans justement le management de projet, eh bien, c'est grâce à ces gens-là qu'on va créer de la valeur. C'est ça qu'attendent nos dirigeants. Voilà pourquoi aussi, bah, on s'est encore plus rapprochés ces derniers jours et ces dernières semaines, parce que je crois que l'expertise à la fois de l'intelligence artificielle générative et du numérique avec l'expertise du management de projet, aujourd'hui, ce sont les deux dimensions les plus importantes, avec la dimension évidemment des ressources humaines et évidemment la direction d'entreprise et la gouvernance qui va bien avec.
Cher ami, le temps file, de sorte que ma dernière question est présentement le modèle organisationnel en gestion de projet, c'est une planification stratégique qui est supportée par un portefeuille qui supporte les stratégies. Les portefeuilles sont déclinés en programmes, les programmes sont déclinés en projets. Tout ça dans un cadre de gouvernance bien nanti. Est-ce que tu penses que cette approche-là qu'on a présentement en gestion de projet, de la gestion organisationnelle de projet, pourrait être mis en péril, parce que, tu sais, moi, on a déjà parlé, je pense qu'implanter l'IA d'une organisation, c'est un projet. Sauf que le projet doit supporter une stratégie organisationnelle. C'est la préoccupation du C-suite. Si on veut être là en 2028, ben, il faut faire des projets pour nous emmener l'organisation ailleurs qu'en 2024. Comment tu vois ça un petit peu?
Alors, je pense que, justement, c'est le moment ou jamais où il faut revoir en même temps la stratégie, son portefeuille de projets, sa feuille de route, ses projets. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il est clair que l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres outils, l'IoT, aujourd'hui l'Internet des objets qu'on va retrouver partout et qui vont nous amener énormément de données qui vont justement nourrir l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative plus particulièrement, avec aussi les caméras, avec tout ça. Eh bien, de fait, ça va nous permettre de repenser aussi des modèles, comme aussi des nouveaux modèles d'intermédiation. Si je te dis aujourd'hui que si Booking ne fait rien, ils sont morts, eh bien ça, personne s'y attendait. Aujourd'hui, même Google, avec son moteur de recherche, est en train de trembler dans ses bases parce que OpenAI amène un moteur de solution. Et on voit bien que ce qui sera plébiscité dans les mois et les années à venir, c'est un moteur de solution, c'est pas un moteur de recherche. Ça veut donc dire que toute entreprise doit repenser sa stratégie par rapport à ce nouveau champ des possibles qui va amener de nouveaux phénomènes d'intermédiation, un parcours client complètement différent. Je peux m'adresser à lui de manière beaucoup plus naturelle. Aujourd'hui, le simple fait qu'on parle dans cette interview en français, eh bien, on peut la traduire sur un clic en chinois, en indien, en n'importe quelle langue. Donc, la stratégie, évidemment, il faut repartir de là et on va redécliner toutes les étapes telles que tu les as décrites, et ça, ça ne va pas changer. C'est-à-dire les fondamentaux managériaux ne seront pas remis en cause. Au contraire, les entreprises les plus performantes sont justement celles qui garderont justement cette maîtrise managériale, mais simplement à l'aune de l'IA et de l'IAG qui arrivent.
Ah, mon Dieu, je passerai la journée à jaser avec toi, Christophe. C'est super intéressant, surtout que j'imagine que c'est les mêmes préoccupations qu'il y a pour nos auditeurs. Écoute, malheureusement, le temps file. Je dois absolument te remercier sincèrement d'avoir pris du temps. Je sais que tu es hyper occupé de voir jaser de cette game changer-là, surtout l'aspect en gestion de projet. Merci énormément, cher ami, puis j'espère qu'on aura la chance dans les semaines et les mois qui viennent de voir contribuer et continuer cette discussion aussi palpitante qu'aujourd'hui. Donc, chers auditeurs, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. On vous convie à notre prochain podcast GPBL Pensée Projet dans les semaines, dans les mois qui s'en viennent. Puis d'ici là, je vous remercie énormément de votre participation. Puis Christophe, encore une fois, un énorme merci.
Ben, merci à toi aussi, d'autant plus que le beau t-shirt que tu m'as offert des Canadiens, je sais qu'ils ont gagné hier soir, donc go Habs go!
Merveilleux, merci beaucoup. Au plaisir, Christophe. Attention à toi.
Merci à toi.